France Info.
France Info.
Bonjour Marie-Noëlle Lindemann.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice PS de Paris, vous êtes en duplex de La Rochelle, dans les locaux de nos confrères de France Bleu. Le gouvernement fait sa rentrée aujourd'hui, le contexte économique est morose. Faites-vous encore confiance à François Hollande et à son équipe ?
Oui, bien sûr. En tout cas, je pense qu'il devrait davantage écouter l'ensemble de sa majorité et l'ensemble du pays qui demande à minima un débat sur les orientations économiques et sociales du pays. Et pour ma part, je suis convaincue que c'est une réorientation majeure qui est nécessaire si l'on veut d'une part redresser dans la justice le pays et d'autre part que s'achève correctement le quinquennat de François Hollande.
Une réorientation, ça veut dire que selon vous, il donne trop aux entreprises et pas assez aux ménages ?
C'est global. La pseudo-politique de l'offre est une politique qui est aveugle. Évidemment, il faut s'occuper de certaines entreprises qui ont besoin d'être soutenues, notamment dans la compétition mondiale et dans l'exportation. Encore que vous verrez que vous avez dû voir que les dividendes versés ce trimestre, deuxième trimestre 2014, augmentent de 30% en France, le record mondial des dividendes versé, alors que ça fait déjà des années et des années qu'on répète que la France verse plus de dividendes que l'ensemble des autres pays, notamment de l'Europe.
Ça concerne les très grosses entreprises.
Et ils touchent de l'argent. Donc ça, c'est la politique d'offre. Maintenant, il y a aussi un besoin de pouvoir d'achat pour que les carnets d'entreprises, la masse des entreprises françaises, vit de la demande intérieure. Il faut soutenir ce pouvoir d'achat et orienter la consommation. Et puis, il y a les grands travaux que la puissance publique doit engager pour soutenir des filières industrielles, pour permettre aussi à une modernisation du pays. Je donne quelques exemples. Quand on finance avec 50 milliards de baisse des dépenses publiques, 41 milliards à des entreprises dont la moitié au moins n'a aucune utilité par rapport à la compétitivité, et que dans le même moment, on dépense moins de dépenses de recherche que tous les autres pays développés, on donne moins à l'enseignement supérieur pour être compétitif, ne serait-ce que sur ces sujets-là, sans parler de la vie des fonctionnaires et de leur pouvoir d'achat, on se rend compte de l'aberration de cette politique. Elle ne marche pas, les résultats ne sont pas là, elles n'ont pas fait la preuve de son efficacité.
Mais justement,
ailleurs,
c'est ce que dit le gouvernement, c'est que pour le moment, c'est trop tôt. Par exemple, le pacte de responsabilité, il n'a pas encore montré ses effets,
oui,
il faut être patient.
Oui, sauf que ça, c'est le discours éternel en Europe. Ça, depuis que j'ai été députée européenne en 84. Depuis 84, on nous dit libéraliser, baisser les salaires des salariés, soyez compétitifs, vous allez voir, les résultats vont être là. Depuis 84, ça fait maintenant plus de 30 ans. Et 30 ans, pendant ces 30 ans, l'Europe a connu la plus basse croissance de son histoire. Et depuis les politiques d'austérité, on est le seul pays partie du monde à avoir une croissance en berne durable. Donc il est temps que ça change,
veut dire que
en Europe et en France.
Ça veut dire qu'on oublie la réduction du déficit public, on s'en fiche ?
Non, on pense qu'on l'étale dans le temps. Parce qu'on le voit aujourd'hui, on nous prétend qu'on baisse le déficit public. C'est pas vrai. On va être encore à 4 et quelques. Donc on a aujourd'hui, par exemple, des moindres rentrées en TVA parce que la croissance est zéro. On a des moindres rentrées, 10 milliards de moins que prévu en impôts sur le revenu. Évidemment, dans cette stratégie-là, les déficits ne se résolvent pas. Et le plus dramatique, c'est que c'est des déficits subis au lieu d'être des déficits maîtrisés. Il y a une différence entre un déficit où on décide d'investir de l'argent public sur des grands travaux d'avenir et créer de l'emploi et une politique où, faute d'avoir de la croissance, on est obligé de colmater les brèches sur le terrain social et économique.
Et donc, très concrètement, que souhaitez-vous que le gouvernement fasse, par exemple ?
Moi,
une ou deux mesures concrètes ?
Premièrement, la réforme fiscale, début numéro un, la CSG progressive. Parce que ça permet de redonner tout de suite du pouvoir d'achat à tous les salariés, notamment tous ceux qui sont en dessous du salaire médian. Et qu'on ne nous raconte pas que ce n'est pas constitutionnel, il y a une méthode qui le permet, mais comme Bercy n'aime pas ça parce que ça lui demande du travail, il freine des cas de fer. La deuxième chose, c'est d'arrêter le prélèvement de 50 milliards sur la dépense publique et d'avoir prévoir au contraire un grand plan de relance, notamment avec des mesures favorisant le pouvoir d'achat des salariés et d'autre part des mesures faisant des grands travaux. Je prends un exemple, vous avez, les céréaliers disent que leur compétitivité dépend maintenant essentiellement de la logistique. La logistique, c'est du fret ferroviaire. Ils demandent des investissements de fret ferroviaire, c'est porteur et pour l'industrie et pour les céréaliers et nos exportations. Et puis dernier grand sujet, effectivement, il est important que le dialogue social revienne, donc on conditionnalise toutes les aides publiques qui font des milliards d'euros.
Donc oui aux aides, oui aux aides aux entreprises, mais on cible mieux les entreprises, c'est ça ?
On les cible et on les conditionne.
Est-ce que vous
soit ils investissent, soit ils créent de l'emploi.
Est-ce que vous avez des relais au gouvernement pour faire passer ce message ?
Ben écoutez, on n'est pas les seuls à s'interroger sur ces sujets-là. Maintenant, on a entendu d'un côté Arnaud Montebourg, on sait que Benoît Hamon partage nos préoccupations pour un certain nombre de points, et sans doute ne sont-ils pas les seuls, notamment sur le bras de fer à engager avec l'Allemagne et l'Allemagne de Madame Merkel. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas être simplement dans le débat petit comité au sein du gouvernement. Il faut que la masse des citoyens et en particulier les élus et les militants qui ont fait l'élection de François Hollande et en tout premier lieu ceux du Parti Socialiste puissent avoir la parole et c'est pourquoi nous demandons un congrès du Parti Socialiste car nous savons que nos alliés, les Verts et les communistes, partagent et nos inquiétudes et pour une part nos propositions. Il y a les moyens d'un nouveau pacte majoritaire à gauche et qui répond aux besoins du pays.
Marie-Noëlle Lienemann, ce que je ne comprends pas c'est que vous êtes plusieurs quand même à penser vos idées là, mais on appelle ça le groupe des frondeurs, on a l'impression que c'est quand même beaucoup de bruit pour rien, puisqu'à chaque fois vous critiquez et finalement tout le monde rentre dans le rang quand il s'agit de voter les textes, tout le monde les vote, ou au moins s'abstient.
Oui. Bah oui, attendez. D'abord, premièrement, on peut quand même trouver normal que dans une majorité, on engage le débat et que quand on n'arrive pas à se faire entendre, on cherche d'abord à convaincre. Moi, je ne sais pas ce qu'on fera au prochain budget. Ce que je sais, c'est que dans la phase où nous sommes aujourd'hui, il faut à la fois convaincre sans créer des crises politiques qui soient irréversibles et majeures. Donc, il est évidemment, nous avons une double responsabilité. Le pays n'a pas besoin d'une crise majeure. Maintenant, au bout d'un certain temps, si le gouvernement ne veut rien entendre, c'est pas parce que la Ve République donne des pouvoirs à une majorité et surtout à un président qu'on doit être là les bras ballants quand le pays va mal, quand la masse des Français ne croit pas en ce que nous faisons. On ne peut pas gouverner sans la confiance. Donc on nous demande de vouloir fracasser pour faire la victoire de la droite, ça n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de convaincre la gauche de sa capacité à changer de cap.
Et quand vous dites convaincre la gauche, c'est aussi les écologistes et les communistes, par exemple ? C'est refaire la gauche plurielle ?
Oui, en partie, mais bien au-delà. Il y a d'abord les radicaux de gauche qui ont bien raison de s'interroger sur la réforme territoriale qui est très mal ficelée, qui a ni queue ni tête en l'état actuel des choses. Oui, il faut refaire ce pacte majoritaire. La première des choses que le président devrait faire, c'est inviter l'ensemble des forces qui ont fait sa victoire, car c'est pas lui, François Hollande, tout seul qui a gagné, pour discuter avec eux de cette nouvelle étape qui est nécessaire. Car s'il a cette confiance-là, il aura la confiance des Français, surtout s'il tient le cap qu'il avait présenté au discours du Bourget et dans ses engagements.
Marie-Noëlle Lienemann, une dernière question. J'aimerais votre avis sur la photo et le commentaire fait par Nadine Morano. Elle a publié sur Internet l'image d'une femme voilée qui était de dos, assise sur une plage pendant que son mari était en train de se baigner. Nadine Morano, elle dénonce une atteinte à notre culture. Qu'en pensez-vous ?
Bon, d'abord, moi, je ne suis pas. Il y a le concept de culture française, ça n'existe pas. Il y a la loi en France. Donc, évidemment, la loi n'interdit que le voile complet qui voile l'ensemble du visage sur les lieux publics, donc sur les plages comme sur le reste. Pour le reste, le foulard classique, lui, n'est pas interdit. Alors, ça n'empêche pas qu'effectivement, il faut s'interroger sur le combat pour l'égalité homme-femme, mais l'histoire a montré que ce combat combat devait se faire dans le respect de nos lois et que le durcissement strict des lois ne permet pas toujours de faire avancer les choses. En revanche, un vrai travail sur l'égalité homme-femme avec l'ensemble de la communauté musulmane en France me paraît quand même un travail à engager avec les autorités religieuses de cette religion.